Bonjour, je vous propose une rencontre avec l'auteur Sylvain Gillet, auteur, réalisateur, acteur. Une rencontre avec cet artiste protéiforme qui va se passer en deux temps. Tout d'abord, vous allez pouvoir réécouter l'interview que nous avions fait pour le direct, dans lequel Sylvain présente son dernier-né, son dernier livre, Comedia Nostra, et après une petite pause musicale. On continuera la rencontre et à la découverte de ce monsieur fort sympathique, assez rock'n'roll, comme vous allez l'entendre dans ses choix musicaux. C'est y part. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, interview portrait, je suis avec Sylvain Gillet. Sylvain, bonjour.
Bonjour.
Alors, qui est Sylvain Gillet? Sylvain Gillet est un auteur. Entre autres, on aura l'occasion peut-être de découvrir un peu cette personnalité multiple lors une émission spéciale où un micro est à vous, où on prendra le temps de laisser le micro à lui, en l'occurrence. Mais je voulais plutôt aborder avec toi, on va se tutoyer pendant cette interview, la vie d'un auteur qui sort des livres, évidemment. Le premier livre, c'était Ludivine comme édite par Sylvain Gillet. Tu as sorti ce livre en quelle année? C'était quand?
Alors, ça devait être en août 2018, en gros, il y a 2 ans.
Et bientôt va sortir, pendant ce mois d'août, Comedia Nostra. C'est le nouveau-né de l'écurie Sylvain Gillet.
Exactement, il va sortir le 18 août aux éditions Ramsay. Voilà.
On va signaler que le précédent livre n'était pas aux éditions Ramsay, mais aux éditions Thot. En quoi est-ce que c'est particulièrement et systématique et important de dire à l'éditeur quand on est auteur? Parce que dès qu'on parle d'un livre à la radio, tout de suite c'est à tel éditeur. Alors que quand on sort un disque, on ne dit pas ah ben, chez Barclay ou chez Sony.
Bon ben, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, c'est parce que déjà c'est pour remercier l'éditeur qui a accepté de nous éditer. Et puis, je trouve que c'est une question de politesse déjà. C'est pas forcément une question de praticité. Enfin, après, pour retrouver le bouquin, parce qu'il suffit de dire le titre après quelques solitaires, ça change rien. Et puis, je crois qu'en fait, les lecteurs s'en foutent un peu de l'éditeur, en fait, je pense. Mais bon, je trouve que c'est la moindre des choses. Et puis, parce qu'on a envie d'être édité encore chez ce même éditeur. Donc, voilà.
Alors, oui, effectivement. Sylvain Gillet n'est pas un auteur local. Et c'est pas grave parce qu'on va essayer de le dire plusieurs fois dans cette interview. Si vous voulez un livre, vous allez même dans votre maison de la presse, ils peuvent le commander. Le prix en France du livre est partout pareil. Donc au lieu d'aller à Cultura acheter un bouquin, vous allez l'acheter chez votre libraire, enfin ou chez d'autres fournisseurs de livres, et ce sera le même tarot. Et autant faire vivre en local, et vous dites je veux Ludivine comme édite de Sylvain Gillet, et vous le trouvera. Donc même si notre auteur aujourd'hui, Sylvain et Rémois, mais qu'importe, on va parler de la vie de l'auteur, de ce que c'est que écrire des livres. Comment a commencé l'envie d'écrire chez toi et les idées, l'envie de faire ce premier livre, Ludivine comme édite, et après on ira vers Comedia Nostra, le nouveau venu.
Oh ben c'est une question de... ça grandit de plus en plus en fait. Moi j'ai commencé comme comédien, puis en fait on commence par écrire des sketchs, après des trucs un peu plus longs, des pièces de théâtre, après on écrit des petits scénarios, après des scénarios de longs. Et puis après, c'était une question de crédibilité qu'on s'octroie à soi-même, en fait. C'est-à-dire qu'on se dit qui suis-je pour faire ça? De quel droit m'autorise à écrire ça, à me prétendre auteur ou je ne sais pas quoi? Mais le droit, il faut le prendre soi-même. Et puis, si on passe son temps à psychoter, comme on dit, on ne fait rien. Donc, au bout d'un moment, il faut être un petit peu prétentieux, parce que toute démarche artistique est un petit peu prétentieuse, puisqu'on subodore que ce qu'on va faire va intéresser un certain public, ce qui n'est pas forcément évident a priori. On passe ce cap-là, bon, et puis on le fait, voilà. Après, le roman, effectivement, il y a une question de légitimité. J'ai réussi à écrire ça, des trucs un peu courts. Est-ce que je vais réussir à écrire un long? Oui, mais est-ce que ce long est bon ou est-ce qu'il... Évidemment, mais après, il faut que c'est le cap. Que voulez-vous ?
T'as pas fait d'atelier d'écriture ? J'ai entendu quelqu'un qui faisait des ateliers d'écriture avec Philippe Dian, qui visiblement a aussi formé des auteurs. Mais toi, non, c'est un autodidacte complet ?
Oui.
Indépendamment de tout du travail que tu as fait d'écriture dans le cadre de ton travail précédent.
Oui, bah après, chacun a sa formation. Moi, les ateliers d'écriture, pourquoi pas ? Si ça peut faire sortir des auteurs intéressants, pourquoi pas ? Moi, personnellement, j'y ai jamais cru une seconde, mais bon, c'est comme tous les ateliers artistiques. Hein. Bon, c'est s'il n'y a pas une flamme au départ, il ne faut pas confondre des. Il y a atelier à atelier. Tout dépend de l'honnêteté de l'intitulé au départ. Si l'intitulé fait croire aux gens, aux futurs postulants, enfin aux futurs gens participants,
qui vont être auteurs,
c'est une arnaque.
Ouais.
Ça n'existe pas, ouais. C'est une connerie. Mais ça, c'est dans tous les domaines artistiques, hein, et pas que d'ailleurs. Si on fait tous les ateliers d'acteurs, si on leur fait croire qu'ils vont devenir acteurs professionnels, c'est une connerie. Mais si on leur dit juste, si on est un petit peu honnête, et qu'on dit, bon, bah, écoutez, si ça peut vous aider à vous épanouir personnellement, bah, c'est déjà pas mal. Mmh. Voilà, mais il faut être honnête.
Dans Ludivine, comme Edith, on suit une enquête d'un guitariste de blues, Abel Diaz. Comment tu qualifierais ton écriture ? On sent que tu aimes quand même pas mal le rock. On sent que il ne te déplaît pas l'écriture de Frédéric Dard, non ? C'est des conneries si je dis ça ?
Alors, il y a plein de gens qui me le disent, mais en fait, j'ai lu un Sant'Antonio, un seul.
Non, mais c'est une connerie, donc j'ai...
Et ça ne m'a pas trop plu, en fait. Le problème en France, c'est que dès qu'on essaye un peu de faire du style, enfin du style un peu gouailleur, tout de suite, on nous compare à Sant'Antonio. Mais mon Dieu, c'est pas le seul, hein. Je respecte absolument Sant'Antonio, mais j'en ai lu qu'un, donc c'est pas du tout. Et encore une fois, il m'a pas plu. Je serais beaucoup plus influencé par Michel Audiard, par contre. Alors oui, mais je suis pas le seul, hein, évidemment. Avoir une écriture un peu libre, plutôt comme Frédéric Fajardi, qui malheureusement est moins connu maintenant, mais qui est un auteur français qui faisait pas que du polar, qui était très intéressant, qui avait une très belle langue. Et puis même avant Audiard et compagnie, il y avait des gars comme Albert Simonin qui sont un peu désuets maintenant, mais de toute façon, moi, j'ai pas du tout calculé quoi que ce soit par rapport à mon style ou quoi que ce soit. J'y suis allé franco de port et puis y a basta. On n'écrit pas ce qu'on veut, on écrit ce qu'on peut. C'est toujours la même chose. Hein. Ouais. Évidemment, on est influencé, mais qui ne l'est pas ? Après on peut être dans un monastère. Hein. Il y avait Orson Welles qui disait qu'il se refusait à voir certains films et compagnie parce qu'il avait peur d'être influencé. Et ben, autant, pourtant, je sais que je l'idolâtre, mais je pense qu'il avait tort.
Le prochain livre Comédia Nostra de Sylvain Gillet donc sort cet été, quand tu le sais ?
Le 18 août 2020, donc le 18 août, en sortie papier, d'ores et déjà disponible en version numérique.
C'est attendu pour l'auteur, la sortie papier de ce livre. C'est le deuxième livre, c'est aussi peut-être la marque d'être reconnu. Le deuxième livre, on a passé un palier.
Oui, certainement. Le premier est déjà un palier. Effectivement, qu'on ait fait un deuxième, c'est déjà pas mal. C'est comme pour les films, qu'on ait fait un deuxième, c'est pas mal aussi. Après, ça dépend aussi. Bon, il se trouve que là, je passe chez un éditeur un peu plus... je ne vais pas comparer ni plus grand ni moins grand, mais juste un peu plus connu, qui est Ramsay. Donc, effectivement, c'est important pour moi. Mais ça paraît évident. Le romancier qui va vous dire que le bouquin sur lequel il a bossé pendant 2 ans, il n'est pas, il s'en fout, ce n'est pas important.
C'est 2 ans de travail, un bouquin ?
Oh, ça dépend. Le problème, c'est que c'est très difficile à quantifier parce qu'il n'y a pas de règles. Il y a des gens qui écrivent avec plan ou sans plan. Et rien que ça, c'est particulier parce que vous pouvez avoir des gens comme, par exemple, Ruffin qui, qui écrit très vite. Il écrit un roman en un mois, mais par contre, il a réfléchi pendant 2 ans. Ouais. Et puis, vous avez des gens, ils font aucun plan, mais par contre, ils l'écrivent pendant 2 ans aussi. Il n'y a pas de règle, vous voyez. Dicker, il n'y a pas de plan. Alors que quand vous lui évoquez, c'est beau, vous avez l'impression qu'il y a un plan. Et ben non, il n'y en a pas.
C'est quoi la vie d'un auteur qui cherche à faire vivre son bouquin chez les lecteurs? Le quotidien, c'est je sais pas, des voyages, des dédicaces, courir, l'envoyer à tous les critiques littéraires. C'est quoi la réalité de ta vie? Je vais faire une voix très, très suave comme ça. Quelle est la réalité de ta vie?
Eh bien, je vais faire pareil. Eh bien, en fait, ça dépend de la notoriété de l'auteur, surtout. Hein. Parce que quand vous êtes... Je veux dire, en France, par exemple, Michel Houellebecq, qui est connu, qui vend beaucoup, c'est pas la même réalité que Sylvain Gillet, qui n'est connu que par sa belle-mère.
Le premier album... le premier livre s'est vendu à peu près à 1000 exemplaires. C'est quand même pas non plus rien,
oui,
vu
oui.
La réalité des ventes des auteurs en normal.
Oui, parce que... Ah, je pense qu'il est bon de le lire, parce que les gens ne le savent pas, mais la moyenne de vente des romans en France, c'est 350. Parce qu'il y a énormément de romans, y compris les vedettes. Hein, donc, mais l'arité, moi, je me démène beaucoup pour vendre mes bouquins. Donc, je fais beaucoup de salons littéraires, de dédicaces partout où je peux, dans les librairies, donc dans les salons, donc, et puis aussi dans des librairies un peu plus commerciales comme qui m'aident beaucoup, qui me soutiennent beaucoup, comme les magasins Cultura et les espaces culturels Leclerc, qui m'ont beaucoup accueilli. Enfin, vraiment, je les remercie. Ils sont très, très bien. C'est du boulot. Mais pour moi, c'est pas très désagréable, parce que c'est plutôt agréable, parce que les salons, c'est plutôt sympa, parce qu'on rencontre plein de gens et plein d'auteurs, mais on vend pas beaucoup. Par contre, dans les dédicaces, dans les centres commerciaux, on est tout seul, mais par contre, on vend mieux. mais on s'éclate. Moi, je m'éclate parce que je fais tout un pataquès. Je suis vraiment le bonimenteur. Elle est fraîche, ma morue. J'ai tout un truc. Enfin, j'ai plein de trucs déconnants, quoi.
Bon, pour ceux qui n'auraient pas donc le plaisir de pouvoir te croiser dans une rencontre, dans une dédicace de visu, comment tu nous vendrais Comédia Nostra, le dernier Sylvain Gillet qui sort ce mois d'août?
Eh bien, c'est un roman extraordinaire qui plaira aux plus jeunes comme aux plus vieux. Donc, c'est l'histoire d'un vieux comédien qui va être embauché pour sa ressemblance, de façon très chanceuse, qui va être embauché par la branche française d'une famille mafieuse parce que cette branche française doit se réconcilier avec la branche américaine pour récupérer un certain pactole qui a été dispersé entre les deux branches il y a 50 ans, entre les deux frères, le cadet qui est parti aux États-Unis et l'aîné qui est parti en France, d'où la création des deux branches. Donc ce comédien ringard, un vieux, très strict, très tragédie, vous voyez, imaginez un Alain Cuny, mais alors puissance 12, par sa ressemblance va être embauché par cette branche française. Pourquoi? Parce que malheureusement, le parrain français est décédé il y a quelques mois. Donc, ça serait quand même très bête de ne pas pouvoir récupérer ce pactole. Donc, ils vont embaucher ce comédien pour jouer le rôle du parrain décédé. Ils vont tout baser sur le fait que, après 50 ans, bon, les souvenirs s'émoustillent quand même. Et puis, évidemment, rien ne va se passer comme il doit se passer. Il y aura plein de rebondissements et ça va être terrible.
C'est pas mal comme pitch. Donc, on parle du livre Comédia Nostra de Sylvain Gillet chez Ramsay qui sort le
18 août, donc vous avez compris, d'où le titre Comédia Nostra, qui est un mix, puisque c'est des vieux comédiens à la mafia, donc Comédia et Nostra, Cosa Nostra, la mafia sicilienne, donc le mix, voilà.
Bon, et on va se retrouver dans une émission, dans un interview un peu plus long. Merci Sylvain, et on va évidemment conseiller ce livre que je n'ai pas encore lu. J'ai la dédicace qui est juste devant les yeux. Après Ludivine Comédie, je me suis vraiment régalé. Le bonhomme est bien rock'n'roll, donc pour ceux qui aiment un peu l'écriture avec du style, je vous le conseille, commandez-le, et ce sera que du pur bonheur. À très bientôt, on va se retrouver Sylvain, merci.
Merci à tous et un grand merci à tous les auditeurs de Décibel FM. Merci.
On vient juste d'entendre l'interview de Sylvain Gillet qui est toujours là. Rebonjour Sylvain.
Rebonjour à tous.
Donc tu nous as juste dit au revoir, mais là c'était l'interview qu'on avait fait pour parler de ton livre Comédia Nostra, donc on vient de l'entendre, qui sort ce mois d'août. Mais je trouvais ça dommage d'avoir un auteur et qui a un parcours un peu incroyable et de s'arrêter à ces juste 15 minutes d'interview. Alors, je propose à nos auditeurs qu'on se fasse une petite pause musicale et après on va revenir pour un interview plus long et on va aborder ce que c'est que la vie d'un auteur et peut-être le parcours d'une vie qui peut être riche d'enseignements pour un peu tout le monde, me semble-t-il. Alors, on avait dit dans Ludivine Comédie, ton premier roman, que le bluesman Abel Diaz était bon, un bluesman, il aimait la musique, mais tu aimes bien la musique, le rock peut-être. Alors, qu'est-ce que tu as envie d'entendre maintenant, juste avant qu'on prenne la conversation?
Oui, je ne sais pas si toutes les musiques sont autorisées sur vos ondes.
Toutes les musiques sont absolument autorisées sur nos ondes.
Oui, donc ne me provoque pas, je risque de demander des choses un peu difficiles. Des choses qu'on n'entend pas beaucoup.
Vas-y, essaye de voir si...
Ah non, mais des trucs plutôt connus hein, non plus, faut pas perdre les gens. Mais je sais que tu es un grand fan de Motorhead. Mais Motorhead, bon, c'est très connu. Allez, un petit Slayer, s'il vous plaît.
Quel est le morceau que tu veux entendre ?
Eh bien, allons-y carrément. Je vais te demander, et pour moi, pas forcément le morceau le plus connu, mais pour moi le plus symptomatique au niveau structure musicale, Spirit in Black de Slayer.
C'est Tipar. I will. fait toujours du bien d'écouter un peu de heavy metal sur Decibel FM, voire de speed metal. Qu'importe, on n'est pas là pour parler musique, on est là pour rencontrer un auteur, Sylvain Gillet. On a, dans la première partie de cette rencontre, de cette interview, on avait pas mal évoqué le travail d'écrivain, enfin la réalité d'écrivain, d'un écrivain qui a deux livres, Ludivine Comédite et Comédia Nostra, donc, qui sort le 18 août partout. Vous pouvez le commander dans les librairies, les prix du livre est pareil partout, donc achetez ça chez les libraires, faites vivre les libraires. Et la question que j'ai envie de te poser, on l'avait un peu évoqué, comment on devient écrivain, mais ton parcours ne t'avait pas forcément destiné à être écrivain. C'est quoi ton parcours de vie qui t'amène à cet aboutissement d'être noircisseur de pages?
Alors déjà, il faudrait s'entendre sur le terme écrivain, parce que écrivain en France, c'est quelqu'un qui écrit des romans. Alors que logiquement, écrivain, c'est quelqu'un qui écrit. Donc moi, je me suis toujours considéré comme écrivain parce que j'ai toujours écrit. Mais du théâtre et des scénarios. Mais les gens qui écrivent du théâtre, on appelle ça des dramaturges, même si c'est de la comédie. Et les gens qui écrivent du scénario, on appelle ça des scénaristes. L'important, c'est les écrivains, puisqu'ils écrivent. Bon, là, il se trouve que c'est du roman, donc maintenant, je suis écrivain. Et c'était quoi la question ?
Le parcours de vie qui amène à maintenant faire que de l'écriture, en version courte. Hein.
Oh, bah, le parcours de vie, c'est des hectolitres d'alcool, des galets. Non, je déconne. Enfin, pas totalement.
Un début acteur, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En fait, moi, je suis venu à l'écriture, par le jeu. En fait, j'ai commencé comme comédien. Enfin, j'ai commencé le théâtre amateur à 14 ans. Et puis, parallèlement, en suivant des études un peu convenables de comptable, si vous voulez tout savoir, à 3, pour assurer les parents, j'ai toujours su que je voulais faire comédien. Donc, j'ai essayé de faire une carrière de comédien d'abord, ce que j'ai fait. Pour la plus prestigieuse, ça c'est clair. Mais comme 98% des comédiens en France. Hein. Puis très rapidement, comme j'écrivais des sketchs, des trucs comme ça, l'envie d'écriture est venue par le théâtre, voilà, des sketchs, puis ensuite des trucs un peu plus longs, donc des pièces de théâtre, et puis après, naturellement, par des rencontres, du scénario.
C'est vraiment différent l'écriture d'un scénario par rapport à celle d'un roman ?
Non, normalement, ça devrait être différent, mais actuellement, l'écriture d'un scénario, ça devrait être l'étape précédente d'un roman. Logiquement, un scénario, ça devrait être un roman inabouti, dans lequel il n'y aura pas le style, en fait, il n'y aura pas l'écriture. La preuve en est, c'est qu'il y a très très peu de scénarios qui sont édités. Parce que c'est un outil de travail, un scénario. Contrairement au théâtre, un texte de théâtre est fait pour être joué, ça c'est clair, évident. Mais ça peut être lu. Pas tous les auteurs, mais certains auteurs peuvent être lus. Du scénario, c'est quand même... c'est tellement d'ailleurs peu lisible, c'est qu'il y a une mode qui existe, enfin une mode qui est depuis longtemps, il y a des scénarios romantisés. Je trouve ça pas forcément très intelligent, enfin c'est comme ça. Parce que tout simplement, c'est un outil de travail. Parce qu'un outil, ça doit être neutre. On ne doit pas...
C'est indicatif, on dit ce qui se passe.
Oui, c'est indicatif. Par exemple, parce que soit un scénario, c'est un outil de travail qui va concerner beaucoup de gens. Et pas que les comédiens, les techniciens aussi. Les techniciens. Donc si vous, dans un roman, par exemple, une voiture bleue, une Renault 21, enfin une, je ne sais pas, une Renault, je ne sais pas, une 21, c'est plus une Renault 21.
Je sais pas, non,
enfin bon, bref, une Twingo bleue.
Jaune.
Une Twingo.
Une Twingo jaune.
Et bah, une Twingo jaune, vous, moi, toi, on comprend. Mais c'est pas la même chose pour tout le monde. Vous parlez à un chef opérateur de cinéma ou même un régisseur de théâtre, jaune, pour lui, il a 40 jaunes dans la tête. Pour lui, ça ne veut rien dire, jaune. Il en a plein. Et encore, j'ai précisé Twingo. Là, Twingo jaune, c'est un terme de scénario. Si vous dites dans un roman, on vous dira une voiture jaune, mais on ne précisera pas forcément. Vous voyez, c'est pas chacun se fait son film dans un roman, alors que dans un scénario, non, le film, il est à faire. C'est pas la même chose.
Vous avez aussi réalisé quelques films, quelques courts-métrages.
Parce qu'on ne se tutoie plus maintenant.
Mais quand on parle de courts-métrages, on vous voit, c'est une règle dans l'audiovisuel.
D'accord, j'ai bien compris. Oui, j'ai réalisé, j'ai beaucoup réalisé pour gagner ma vie, du film d'entreprise plein. Et puis, au départ, j'ai réalisé plusieurs courts-métrages, 4 courts-métrages, qui ont très bien marché. Avec Marc Gélas, Patrick Dassoum-Sao, avec Julien Guillaumard, Jean-Claude Dreyfus, François Rollin, qui ont tous très bien marché, donc j'ai pas eu à me plaindre. Ouais.
Tout ce parcours de vie aboutit à celle d'auteur. Maintenant que tu as fait quand même quelques travaux, tu es un peu connu aussi dans le milieu, est-ce que malgré tout, on peut facilement arriver à se faire éditer ? On écrit un premier bouquin. Comment il est né, ce premier bouquin ?
Oh ben non, c'est pas facile du tout. Hein. C'est tous les gens qui essayent de faire éditer un premier bouquin, vous le diront. Et je pense que tout le monde fait un peu la même chose. On commence par les plus, c'est-à-dire qu'on envoie des manuscrits et on fait tous la même chose. On commence par les plus grands parce que comme on n'y connaît rien, on connaît pas le truc. Donc on commence tous à envoyer à Gallimard, Grasset, Le Seuil, Stock, Actes Sud, etc. Tous les plus grands, Flammarion, etc. En fonction des réponses.
Des refus.
Voilà. Là, on va dire ça, les prétentions descendent et puis on fait un peu plus bas. Donc là, en l'occurrence, on va taper en dessous un petit peu. On va faire l'Olivier, il y en a plein, quoi. Alba Michel, bref.
C'est le parcours obligé. Enfin, c'est le parcours classique, certes, mais est-ce que c'est le passage obligé, indispensable? On peut difficilement passer autrement que par cette étape?
Ah non, je crois pas du tout. Non, c'est juste le parcours obligé de l'ignorant que j'ai fait et que fait, à mon avis, 95% des gens qui veulent éditer un premier roman. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment ça marche. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Tu veux éditer un bouquin? T'envoies chez Gallimard, c'est un peu logique. Ouais. Tu vois, sauf qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On ne sait pas que Gallimard en reçoit à peu près 15 par jour, à minima. Quand je dis Gallimard, les gros, les 15 plus gros. Quand je dis 15 plus gros, c'est plutôt les 30 plus gros. Même les tout petits, ils en reçoivent au moins 3-4 par jour. Hein. Tous les éditeurs sont débordés de manuscrits.
Comment ça s'est passé pour toi? Sur la publication de ce premier bouquin, Ludivine Comédite.
Après coup, on comprend. Par exemple, il ne sert à rien d'envoyer des choses. Il faut quand même envoyer des choses sérieuses, professionnelles. Parce que si vous envoyez un manuscrit, il y a 2 fautes d'orthographe par page, c'est sûr que ça passera pas. Hein. Ça, c'est clair et net. Mais rien que ça, parce que rien que l'orthographe, c'est un manuscrit, par exemple, de 300 pages, c'est pas si évident que ça. On se croit tous très fort en orthographe, mais c'est pas vrai. Normalement, il faudrait se payer à correct. Mais ça, c'est déjà de l'argent. C'est pas gratuit. C'est déjà un investissement. Tous les envois que vous faites, par exemple, parce que les petits acceptent maintenant des envois en PDF, mais tous les gros, ils n'acceptent que des trucs en papier, reliés, pas recto verso, avec un interlide de 1,5 minimum. Donc, un manuscrit, il fait au minimum 200-250 pages. Donc, le truc vous coûte de l'argent, plus le port, chaque envoi vous coûte 15 euros à chaque fois. Donc, ça dépend qui en est au départ. Et si vous êtes personne comme je l'étais, c'est un peu d'argent, évidemment.
Et l'histoire autour de Ludivine Comédite?
Eh bien, j'ai cherché, et puis un éditeur, Édition Tote, basé à Fontaine, à côté de Grenoble, m'a dit oui. Eh bien, donc j'ai dit banco, qu'est-ce que vous voulez, hein?
Ils lisent le manuscrit, ça leur plaît, contrat?
Oui, puis contrat, bon, après, c'est pas le contrat du siècle, hein, mais avec certaines conditions et compagnie, mais bon. J'y suis allé, quoi, voilà. Je me suis dit, bon, il ne faut pas être trop exigeant non plus au départ. Et puis, comme je n'avais pas non plus de réseau de relations incroyable, parce que tout dépend de ça aussi au départ, comme ça, il faut bien le dire quand même. Hein. S'il n'y avait que la qualité du manuscrit qui comptait, ça se saurait. Hein, c'est exactement comme les scénarios. S'il n'y avait que la qualité des scénarios qui compte pour faire un film, ça se saurait. Et d'ailleurs, je pense que personne n'est dupe. Les spectateurs comme les lecteurs le savent. Il suffit de regarder les films, il suffit de lire les livres. On sait très bien que c'est comme ça. Mais il ne faut pas se plaindre non plus, puisque ça a toujours été comme ça. J'imagine qu'à l'époque, dans les années 50, le mec qui voulait faire un film, il valait mieux pour lui avoir Gabin dans le casting plutôt qu'un bon scénario. C'était plus facile. Alors, sauf que tout, c'est pas si simple que ça, puisque peut-être que Gabin n'aura pas accepté de venir sur un mauvais scénario.
Ça, on le saura pas trop. Et donc, l'aventure du premier roman se passe plutôt pas mal. On l'avait dit en première interview. Beaucoup de dédicaces, beaucoup de kilomètres, un bilan carbone absolument déplorable pour ce premier roman. Et de rencontres publiques, de ventes en direct. Et l'aventure du deuxième roman commence avec Comédia Nostra, qui sort donc le 18. Je l'aurais dit à peu près 5 ou 6 fois durant toutes ces rencontres. J'espère qu'on aura été dans le quota. Et comment on aborde en tant que jeune auteur, enfin jeune auteur, oui, on va dire avec deux auteurs, avec deux livres, on peut considérer encore un peu toujours jeune, cette aventure à venir.
Eh bien, exaltation, fougue et enthousiasme.
Et le même parcours à venir de diffusion du livre, a priori ?
Alors, pas tout à fait, parce que là, le prochain sort chez Ramsay, qui est un plus gros éditeur, donc avec un vrai système, avec une vraie distribution, une vraie diffusion, tout ça. Donc c'est beaucoup plus, je vais pas dire facile, mais enfin beaucoup plus professionnel. Enfin, dans la distribution en tout cas, il y aura donc un peu plus de promotion, forcément. Mais moi, je considère qu'il faut que je fasse comme avant, c'est-à-dire qu'il faut absolument que je continue à faire beaucoup de promos, beaucoup de plein de dédicaces. En plus, ça ne me gêne pas, j'aime ça. Ça me permet de rencontrer des gens, voilà, de fidéliser des lecteurs, déjà. Parce que là, comme c'est le deuxième, là, je commence à avoir des gens qui me disent « Ah tiens, j'ai bien aimé le premier, donc j'ai envie je vais lire le deuxième. » C'est important. Mmh. Et puis, aussi par respect à mon éditeur, Ramsay, qui m'a accepté. Parce qu'il, bien sûr, il m'a accepté d'abord pour le manuscrit que je lui ai envoyé, mais aussi, enfin majoritairement, mais aussi parce que il a vu que je me démenais un petit peu au niveau promotion. Donc ça serait c'est la moindre des choses que je continue à faire, à maintenir ce rythme de promotion. Et donc je fais de la promotion tous les week-ends, des salons du livre, donc dédicaces dans les salons du livre partout où je peux, dans toutes les librairies où je peux, des médiathèques, dans des librairies plus commerciales, genre les magasins Cultura ou Espace Culturel Leclerc. Excuse-moi de les citer, mais j'en ai fait beaucoup et vraiment, ils m'ont beaucoup soutenu. Donc,
voilà. Tu l'avais déjà dit, donc a priori, bon, oui. Si pour le dire deux fois, ça peut vouloir lui.
Oui, mais franchement, ils m'ont vraiment aidé, hein, vraiment.
La chaîne Leclerc peut faire des choses de bien, on peut au moins le signaler. Ah ouais, non, ça me paraît. Donc, on va dire aussi que c'est un message pour.
Oui. C'est passé, c'est les indépendants. N'oublie pas, Leclerc, c'est pas par hasard, c'est pas une chaîne. Tu sais, ils sont. C'est une franchise.
Oui.
C'est pas par hasard. À chaque fois, ce sont des êtres humains que j'ai en face. C'est des responsables de l'espace culturel.
Des passionnés, certainement, ouais. Aussi parfois.
La plupart du temps, oui. La plupart du temps, oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est les salariés. Donc, qu'ils vendent du Stephen King ou du Sylvain Gillet, pour eux, ils s'en foutent. Ils auront le même salaire. Et donc, au contraire, leur intérêt, c'est de faire connaître des gens pas connus comme moi. Moi, il y a un truc qui me désole, c'est que quand je vais dans une librairie ou n'importe où et que je vois des fiches de lecture. Alors, ce qui me désole le plus, c'est quand il n'y a pas du tout de fiches de lecture. Ça, c'est lamentable. Parce que ça veut dire que le libraire, qu'il soit indépendant ou affilié, ça veut dire qu'il ne fait pas son travail. Parce qu'un libraire doit orienter, enfin, doit...
lire des livres.
Oui, inciter à la lecture. Mais moi, ce qui me désole, c'est quand il incite dans le mouvement global, dans le grand fleuve, des libraires qui font des fiches de lecture pour inciter à lire Michel Bussy, Stephen King, ou des gens ce genre de personnes qui n'ont pas absolument pas besoin de ça pour vendre. Je suis un peu scandalisé. Je leur dis mais pourquoi vous faites ça? Ils n'ont pas besoin de ça. Donc aidez les petits comme moi entre guillemets. Mais ça sert à quoi sinon?
Ça sert à quoi? Le message est passé. Si on va rappeler que tu es plutôt un nordiste au-dessus de la Loire.
Champenois.
Mais que tu te déplaces très facilement. Donc si des libraires nous entendent qui veulent faire découvrir tes livres, ton univers, ta gouaille d'écrivain, ce sera avec grand plaisir que tu reviendras dans la région. Sylvain Gillet, on rappelle le nom de tes deux livres, Ludivine Comédite aux éditions Tote, qui a déjà deux ans. ans. Et Comédia Nostra, qui sort donc ce 18 août, on le retrouve absolument partout, vu que le prix du livre est pareil partout, commandé chez vos libraires, et vous les aurez à la maison au lieu de vous sentir obligé d'aller forcément ailleurs. Bon, avant de se quitter, on va se dire au revoir, Sylvain, et tu vas nous dire encore quel est le... Je vais reprendre ma voix. Quel est le morceau que tu veux écouter ? Au revoir, Sylvain Gillet.
Ce qui me passe par la tête, c'est un morceau qui s'appelle Bridge of Sighs, ou Sighs, je ne sais plus, qui est aussi le nom de l'album, de Robin Trower. Trower, la française.
Ouais. Très bien, bah on va écouter ça. Merci beaucoup et bonne route sur les routes avec tes bouquins.
Stay clean. Bridge of Sighs.